Here's a song that comes from Tanzania.
Galère. Nous sommes le 16 janvier et c'est l'émission Livres Amis avec Françoise et Dominique. Quelques informations générales pour commencer. Je n'ai pas eu cette fois-ci l'agenda de Milbabor. Bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu le temps de téléphoner. Et donc je vais me contenter de ce que j'ai reçu par mail. Il y a en ce moment une grande maraude à Montgenèvre, c'est pour protester contre la condamnation de ceux qui sont condamnés pour avoir été solidaires. Et j'ai remarqué une banderole sur une photo dont je vous fais part parce que j'ai trouvé très bien. Notre fraternité n'a pas de frontières. C'est pas beau ça? Notre fraternité n'a pas de frontières. Enfin, à Marseille, le 26. À 14h au Vieux-Port, une grande manifestation contre la vie chère. Toutes les forces de gauche étaient présentes lundi dernier à la Bourse du Travail, la CGT, etc. Bon, le PC s'est excusé, mais enfin, si c'est excusé, je pense que ça veut dire qu'il est pour. Il y avait Solidaires aussi. Et il y avait tout ce qu'on appelle l'extrême gauche ou la vraie gauche, selon. Était là et il y aura une réunion vendredi pour les dernières dispositions contre la vie chère. Alors les gilets jaunes, j'ai regardé dans la liste, maintenant ils y sont pas, mais en tout cas ça montre que le mouvement syndical qui aurait bien dû s'y mettre dès le début, et ben il s'y met. C'est un peu tard, mais c'est mieux que rien. Voilà, passons aux annonces concernant les livres. Gilles Leroy, c'est un auteur que nous ne connaissions pas. Le titre, Le diable emporte le fils rebelle. C'est au Mercure de France, 144 pages, 15 €. Et son inspiration, comme d'habitude, c'est la rumeur. Et ça se passe aux États-Unis. Enfin, pour terminer, pour rire un peu, parce que je ne crois pas que ce soit très très sérieux, Patrick Rambaud nous livre une énième, c'est son 9e livre de pastiche, Emmanuel le Magnifique. C'est Emmanuel le Magnifique, vous vous doutez qui c'est. C'est paru chez Grasset, 216 pages, 18 €. Et on sait qu'il a commencé avec Sarkozy. Il fait des chroniques présidentielles en même temps que des pastiches, pour le coup, il est très connu. Et cette fois-ci, donc, je répète, c'est la 9e. Et je recommande, sinon tout le livre, mais il paraît qu'il y a un morceau d'anthologie. C'est la rencontre avec du jeune prince, avec la baronne d'Ozière. Il rapproche Emmanuel Macron des gens comme Frédéric Moreau dans La vie sentimentale, l'éducation sentimentale, etc., qui sont amoureux de femmes plus âgées que, bon, c'est pas très franchement, c'est pas très fort comme trouvaille, mais enfin, je tenais à le dire parce qu'il me semble que c'est bien amusant. Patrick Rambaud a été connu, il a eu un prix pour ça, par La Bataille, qui a eu le prix Goncourt 97 et le grand prix du roman en 97. Nous l'avons lu à la radio, ce n'était pas de ton temps, Françoise. Et il s'est inscrit dans la ligne de Balzac en 97. Donc Balzac qui avait rêvé d'écrire La Bataille et qui ne l'a jamais fait. Et il s'agirait d'une bataille napoléonienne, la bataille de Dresde. Voilà pour les... Et c'est un récit qui n'a pas peur, si mes souvenirs sont exacts, parce que je ne suis pas allée regarder le livre, qui insiste sur le côté réaliste et aussi avec une espèce de dérision, je crois. C'est bien le style de Patrick Rambaud. Et maintenant, Salina, les trois exils, Laurent Godet, paru chez Actes Sud comme toute l'œuvre de Laurent Godet. Et... quels sont ces trois exils et quel est le sens du terme? C'est la première question qu'on se pose. Salina signifie celle qui est salée à cause de toutes les larmes qu'elle a versées sur le sable du désert au moment où elle est entrée dans les bras d'un mystérieux cavalier sous forme d'un bébé dans un village. Ce sera la première lecture que vous fera Dominique. Un mot aussi sur les trois exils, je me souviens. Alors, au moment où on parle beaucoup, évidemment, d'exil, de droit d'asile, on se pose des questions. Et les trois exils, c'est un premier exil quand elle est chassée du village parce qu'elle a déplu au roi et à la reine, le roi Sissoko. Le second exil, c'est le moment où elle... Non, le premier exil, c'est la jeunesse, c'est le fait de grandir. C'est une jeune fille heureuse, une adolescente heureuse. Et l'écrivain dit, elle ne savait pas que grandir, c'est un premier exil. L'exil, probablement, bon, on va se poser la question, hein, de l'enfance. Deuxième exil, quand elle est chassée du village. Et enfin, troisième exil, vieillie, elle revient et elle se fait encore une fois chasser. Et voici quels sont donc les trois exils de Salina. Mais quelques mots avant sur Laurent Godet, l'auteur. Ce n'est pas un inconnu pour nous, puisque nous avons lu Le soleil des Scorta, pourquoi il a eu un prix en 2004, le prix Goncourt, mais aussi plus récemment Les Oliviers du Négus. Je vous dis tout de suite que c'est mon préféré, vous vous en moquez, mais ça ne fait rien, c'est une série de nouvelles. Et là, c'est aussi dans ce roman qu'on va vous lire, il y a quelque chose de la nouvelle à cause de l'étonnement qui nous prend à chaque nouvel exil. On le voit, il arrive, mais on ne s'en doutait pas. Enfin, le dernier roman que je vous ai lu, c'est... qu'on vous a lu, hein, c'est Oubli. Écoutez nos défaites. Et qui mettait en scène de grands personnages de l'Antiquité ou des personnages des temps qui sont, comme Aïlée Sélassié, qui sont récents et qui sont ceux de la montée du nazisme. Mais donc, tout de suite, à la première lecture, c'est l'arrivée de Salina dans le village, avec un cri.
Au tout début de sa vie, dans ses jours d'origine où la matière est encore indistincte, où tout n'est que chair, bruit sourd, pulsation, veines qui battent et souffle qui cherche son chemin, dans ces heures où la vie n'est pas encore sûre, où tout peut renoncer et s'éteindre, il y a ce cri, si lointain, si étrange, que l'on pourrait croire que la montagne gémit, lassée de sa propre immobilité. Les femmes lèvent la tête et se figent inquiètes. Elles hésitent, ne sont pas certaines d'avoir bien entendu, et pourtant cela recommence. Au loin, vers la montagne Tadma, que l'on ne franchit pas, un bébé pleure. Est-ce qu'elles sentent, les femmes du clan Jimba, à cet instant, tout ce que contient ce cri? Le sang qu'il porte en lui, les convulsions, les corps meurtris, les bannissements et la rage? Est-ce qu'elles sentent que quelque chose commence, avec ce tout petit cri à peine identifiable, quelque chose qui ne va pas cesser de grandir jusqu'à tout renverser?
Voilà, les grands thèmes, on peut dire, du roman sont posés. Le clan des Jimba, les femmes et ce cri qui est un cri de révolte. Ce cri, il est poussé par un bébé que porte sous son bras un cavalier qui s'avance vers le village, qui dépose l'enfant et qui s'en va sans faire plus attention aux guerriers et aux rois qui se sont groupés autour de lui. Et c'est une femme qui, après une longue attente, une journée entière, avec, on pense que les hyènes ou le soleil vont avoir raison de l'enfant, mais l'enfant, elle crie toujours. Et une femme finit par la prendre dans ses bras et lui dit « Je t'appelle Salina ». Et avec un saut dans le temps, on retrouve Salina pas loin de sa mort avec son dernier fils Malaka. Et son fils, il est parti avec une caravane et sa mère l'a laissé partir, bien qu'elle ait peur pour lui de tous les dangers qui le guettent. Mais il revient heureux. Et voilà comment se présente la caravane.
Aujourd'hui, c'est à toi de parler. Qu'il dise ce qu'il a vu et vécu. Qu'il raconte la mort du jeune homme, le marché aux épices du Nord. qui lui explique la vie de la colonne jour après jour et les langues qu'il a apprises. Malaka hésite d'abord, mais ses yeux brillent. Il est devant le feu, il finit de manger les dattes séchées qu'elle lui a tendues et il parle des 37 jours de voyage. Plus il parle, plus elle sent sa joie, son excitation de jeune homme. Et ce que lui dit sa voix, ce ne sont pas les bivouacs confus de la colonne qui furent pour lui des moments d'ivresse. Ce n'est pas la sidération d'être au milieu d'une aussi grande caravane. Ce que lui dit sa voix, au-delà du récit qu'il fait, c'est que la vie a passé. Son fils est là, devant elle, grand comme un homme. Elle le regarde avec émotion, semble le voir pour la première fois. Il croise son regard, mais ne comprend pas que c'est le regard d'une mère qui découvre que son enfant ne lui appartient plus tout à fait. Elle le laisse parler, espérant qu'il fera pendant toute la nuit, même si elle s'endort, même si le feu s'éteint et que le froid les saisit, qu'il parle, pour raconter tout ce qu'il a vu, pour que ses instants s'étirent et ne s'achèvent jamais. Elle a bien fait de le confier à la colonne. Elle s'était jurée de le faire lorsqu'il était encore un nouveau-né. Malgré sa peur et ses réticences de mère, elle s'était jurée de l'arracher régulièrement à ses propres bras. C'est ce qu'elle a toujours appelé le serment d'Alika. Aujourd'hui, elle sent qu'il n'a plus besoin d'autres voyages. Il est prêt.
Voilà. L'histoire, c'est l'histoire de cette femme avec son troisième fils. C'est par là que l'on commence. Et il y a un mot qui est important. Vous avez entendu le mot de Alika. C'est le serment d'Alika. Ça n'est pas dit. Le mystère sera révélé au cours du roman. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Et cet enfant a quelque chose à voir avec Alika. Elle le fait parler, elle voit qu'il est grand et elle se sépare de lui. C'est un peu le bilan de ce qu'a fait une mère avec son enfant. Mais maintenant, le moment n'est plus à la vie, mais le moment est à la mort et elle sait qu'elle va mourir et elle cherche une terre où reposer. Et pour cela, elle compte sur son fils.
Un matin, le vent tombe. Il ne sait pas, de ses doigts ou de son visage, quelle est la partie la plus soulagée de son corps. Le chemin qu'ils suivent s'élargit progressivement. Ils ont passé un col. Il avance encore un peu, jusqu'à une immense dalle de pierre qui domine le vide. De là, il aperçoit pour la première fois l'autre face du monde, immense, se déroulant sous ses yeux avec la lenteur des jours apaisés. Tout est plus vert, plus touffu, et se prolonge au loin par une immensité d'eau qu'il n'a jamais vue. Il est sur le point de poser Salina, de lui dire que le plus dur est fait, qu'ils n'ont plus désormais qu'à descendre, mais il ne le fait pas. Il reste immobile, avec sa mère accrochée à son dos. Il se laisse emplir du silence qui l'entoure. Elle est morte, il le sait. Il ne sent plus de souffle contre sa nuque. Ses bras et ses jambes se sont rigidifiés, comme si elle avait voulu être certaine de ne pas tomber, même dans la mort. Il est seul, pour la première fois, avec sa mère sans vie sur son dos. Elle ne verra pas ce pays étiré qu'il observe avec calme. Elle ne s'émerveillera pas de cet océan à l'horizon et de tout ce qu'il va découvrir, ses bruits nouveaux, ses arbres luxuriants. Elle ne connaîtra rien de ces terres qu'il va parcourir, mais elle est là, encore, contre lui, et lui reste à trouver un endroit où l'ensevelir dans cette immensité nouvelle.
Voilà, cette immensité nouvelle, on ne sait pas du tout la situer géographiquement. C'est exprès, d'ailleurs, que Laurent Godet ne donne pas d'indication. On a connu le village, hein, et le sable que le cavalier franchit pour apporter l'enfant. Et maintenant, c'est une montagne qui a été franchie. Importance de ce thème de la montagne, on l'a vu, hein, avec Wangari Maathai, la montagne qui clôt l'horizon de ces villages, tandis que là, il franchit la montagne, sa mère sur son dos, parce qu'elle est devenue trop faible pour pouvoir marcher, et il voit un pays vert, heureux, semble-t-il, et aussi l'océan. Mais il ne descend pas, il va d'abord procéder à la toilette de la morte, et cette toilette dure 5 jours. Il prend le temps de chercher des parfums dans le sable et dans les rochers, parce que le désert, c'est pas seulement le sable, mais c'est aussi les rochers. Et ainsi, il va soigner sa mère. On a l'impression, on ne comprend pas bien, ça dure 5 pages. Hein. L'évocation de cet embaumement. Et une fois que c'est fait, eh bien, ces 5 jours passés, il va continuer sa route. Et c'est pour rien que le chapitre suivant s'appelle « L'île cimetière ». Il franchit une grande distance et arrive dans une ville qui est une ville tout à fait miséreuse, à moitié détruite, avec des salles et avec des gens qui sont des mendiants. Et il se demande ce qui se passe et il se sent aspiré par les rues de la ville jusqu'au moment où il arrive dans un port. La ville donc est un port, on ne le savait pas, et il voit un mystérieux personnage qui est entouré de singes qui lui montent dessus et il entend le mot Darzagar. Darzagar, c'est quelqu'un qui lui dit « Je suis le passeur et tu vas entrer dans ma barque » et il va donc continuer son voyage avec Darzagar et qui lui dit qu'il l'emmène à l'île cimetière. Et il aperçoit 5 îles et il lui dit « Ah, c'est la dernière ». Et il faut que tu fasses un récit de toute ta vie pour avoir l'autorisation d'entrer dans l'île cimetière, parce que c'est une île qui est faite pour les étrangers, pas pour les gens de la ville. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu y entrer. Et voilà.
Je pourrais enterrer ma mère là-bas ? Demande alors Malaka. C'est le cimetière qui décidera, répond le passeur. Puis il donne une nouvelle grande poussée, tout en laissant filer l'embarcation, et explique que le cimetière où il l'emmène est sacré. L'île est cerclée d'une muraille. Il n'y a qu'une porte, épaisse, qu'aucun homme ne peut ouvrir. Il faut embarquer les morts, et pendant tout le temps que dure la traversée, raconter ce que fut la vie du défunt. Le cimetière entend le récit, et au terme du voyage, décide si la porte doit s'ouvrir ou pas. Le vieil homme raconte les familles entières transportées qui se présentent à la muraille, ceux qui racontent si peu parce qu'ils découvrent qu'ils ne savent rien, ceux qui ne sont pas d'accord et se disputent sur le chemin, ceux qui mentent ou enjolivent. Il raconte la porte du cimetière restée fermée depuis tant de temps. Est-ce parce que le cimetière est plein qu'il refuse de s'ouvrir? Est-ce pour punir les habitants d'un crime qu'ils auraient commis sans même s'en apercevoir? Personne ne sait, mais la porte reste close. Lorsque le vieil homme a terminé, il ajoute, en plongeant le bâton dans les eaux et en poussant de toute sa force, « Lorsque nous serons sortis de la baie, tu pourras commencer le récit de celle que tu amènes avec toi. »
Voilà, il lui donne des indications extrêmement précises et on voit que cette île cimetière, c'est une forteresse. Ça, évidemment, ça nous fait penser à l'Europe forteresse qu'on dénonce, mais rien n'est dit d'autre. Et on va voir que Malaka a un peu d'hésitation, mais il décide de parler. Et en quelque sorte, il assoit son récit en quelques phrases assez brèves qu'on va vous lire. Eh bien, il assoit son récit sur sa détermination à parler alors qu'il n'a pas l'habitude de parler beaucoup.
Moi, Malaka, fils élevé dans le désert par une mère qui parlait aux pierres, je vais raconter Salina, la femme aux 3 exils. Je vais dire ma mère qui gît là au fond de la barque et le monde qui apparaîtra sera fait de poussière et de cris. À l'époque où le monde a accueilli sa vie, il y avait des soleils qui faisaient saigner la peau et un désir de vengeance sauvage. À l'époque où le monde a accueilli sa vie, il y avait une enfant venue de nulle part. Elle est née loin, Salina, si loin que personne ne connaît le lieu exact, ni de qui elle fut l'enfant, pas même elle. Moi, Malaka, qui dois faire le récit de sa vie pour que le cimetière décide de s'ouvrir, je choisis de commencer par ce jour de marche, à l'autre bout de sa vie, car c'est là que tout débute. Un jour de chaleur épaisse où un village entier a tourné la tête vers les montagnes. Les mots que je vais prononcer, je les tiens de loin. Je n'ai pas connu ces jours rêches de combat. Ma mère me les a racontés, mais elle ne s'en souvenait pas non plus. Elle les tenait d'une autre voix, celle de Mamambala. C'est elle qui lui a raconté ce que je vais dire.
Voilà le statut de ce récit qu'il fait en s'approchant en barque. On pense à la barque de Charon, à la barque des enfers, mais rien n'est dit, je répète, chacun fait son, réagit à sa façon. Et là, montre, je répète, le statut de son récit, c'est-à-dire qu'il le tient de sa mère qui elle-même n'a pas connu ces choses-là et qui le tient de Maman Bala. C'est la femme qui, on l'a vu au premier chapitre, se détache des autres femmes du village et des guerriers et va prendre dans ses bras l'enfant, la jeune Salina, elle la baptise aussi, hein, et qui va s'occuper d'elle tout le temps. C'est ainsi que c'est l'auteur, là, c'est Laurent Godet, qui montre comment fonctionnent les contes, les vieilles légendes. Il y a une transmission, et ce n'est pas une transmission directe, c'est une transmission qui passe à travers les générations. D'ailleurs, sa dédicace, il dédicace ça à sa fille et à sa mère. On voit que la transmission passe par les femmes. Et il rappelle donc le début, nous voilà, le début du livre, ces espèces de chassés-croisés entre le passé et le présent sont fréquents dans tout le livre. Et il va maintenant aussi se poser des questions sur qui était sa mère. Et c'est le thème de ce qui s'appelle l'enfant du malheur. Et au moment où il évoque l'enfant du malheur, c'est-à-dire des enfants qui sont chassés de leur village, c'est une coutume qui est commune au village et au clan de ce village à cette époque lointaine dont on ne sait pas exactement où la situer. On ne sait pas où la situer. Eh bien, en période, par exemple, d'épidémie, lever le village de cette malédiction des dieux, car évidemment c'est les dieux, eh bien on envoie 10 enfants avec 10 guerriers parmi les meilleurs, et les guerriers doivent les déposer le plus loin possible. Et ce sont ceux qu'on appelle les enfants du malheur. Quelques-uns survivent, d'autres meurent, et d'autres sont à jamais estropiés. Voilà ce que c'est que les enfants du malheur. Et au moment où il envisage cela, une seconde barque vient s'arrimer, et donc il va reprendre son récit. Et il en vient à l'enfance de sa mère. C'est une enfance heureuse, et elle, comme c'est une belle enfant, elle joue avec Cano. Cano, c'est le second fils c'est le second fils du chef. Écoutez, oui, les enfants du malheur. J'étais tellement emportée par mon récit que j'allais l'oublier.
Moi, Malaka, reprend-il, fils des longues veillées du désert, je le dis devant vous, je ne sais pas qui était cet enfant. J'y ai souvent pensé. Lorsque j'étais jeune, sur les marchés des caravansérails, j'ai entendu parler des enfants malheurs. Dans le royaume des lacs, il y a, paraît-il, cette tradition pour calmer la voracité du mauvais destin. Choisir 10 enfants du clan et les perdre. On ne les tue pas, on les envoie de par le monde, chacun accompagné d'un homme chargé de les déposer le plus loin possible. Les 10 enfants sont soustraits à leur famille. Le jour de l'arrachement, tout est pleurs et gémissements, souffrances de mère et cris de révolte. Mais les 10 guerriers sont choisis pour leur dureté. Ils ne doivent revenir que les mains vides. Ils déposent les nourrissons choisis sur les routes du monde. Certains meurent de faim, d'épuisement, ou parce qu'ils sont recueillis par des hommes qui les négligent ou s'en méfient. Mais d'autres survivent, adoptés là où on les a déposés. Le peuple des lacs essaime des possibles, et calme par ce geste la mauvaise humeur du sort qui s'irrite de trous d'opulence, de trous de paix, et lui demande sa part de chair. Est-ce que Salina a été une de ces enfants offertes aux routes pour apaiser le malheur ? Je ne sais pas.
Voilà comment il voit les enfants du malheur. Il va enchaîner son récit en évoquant l'enfance de Salina, qui est une enfant heureuse et qui joue avec les deux fils du chef, et sans se rendre compte, parce que elle aime Cano, mais il y a le fils aîné Saro, qui la guette, elle ne s'en rend pas compte, et qui lui fait sentir, mais elle ne le voit pas, qu'elle est déjà à lui et qu'il la chasse comme un chasseur chasserait sa proie. Et un grand événement, c'est le moment où elle a ses règles. Il insiste beaucoup là-dessus. Et elle doit passer une bonne semaine à l'intérieur de la case parce qu'elle en est malade. Et quand enfin elle sort, horreur, elle voit que tout est prêt pour un mariage. Elle croyait que c'était Cano avec qui on allait la marier, mais non, c'est l'épouvantable frère aîné. Et alors, c'est ce jour de ses noces, il l'appelle les noces du champ de bataille, car en effet, il va y avoir une véritable bataille entre elle et le fils aîné Saro. Elle va jusqu'à aller se jeter aux pieds de la femme, la mère des deux garçons, et là, elle s'humilie, parce que se mettre à genoux, c'est pas son genre, à Salina, et puis elle lui demande, elle le supplie de lui donner Cano en époux, parce qu'elle avait juré qu'elle ne se marierait jamais, c'est une rebelle. Et là, elle veut bien, mais à condition que ce soit Cano. Et la femme, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver. C'est un nom comme Sakia. Quoi ?
Kaya.
Kaya, voilà, Kaya, la gifle. Et elle, c'est la cérémonie, et ça va être la cérémonie de l'habillage.
Le jour est lent et la chaleur épaisse comme un nuage de poussière. Les femmes autour d'elle s'affairent, nerveuses comme des oiseaux aux premières lueurs du jour. On lui enfile un nouveau collier. Elle en porte déjà 5, mais il en faut un de plus. Des boucles d'oreilles lui ont été mises, si longues qu'elles tombent sur ses épaules. À chaque fois qu'elle tourne la tête, les bijoux s'entrechoquent. Elle porte également des bracelets en or d'épaisseur variable. Elle en a 3 sur l'avant-bras gauche et 2 sur le droit. Une des femmes lui demande de fermer les yeux. On la maquille. 1000 mains s'occupent d'elle. Elle ne dit rien, ne pense plus à rien, voudrait que tout s'arrête, mais il faut encore l'habiller. Elle voit passer des pièces de tissu de couleurs vives, satinées. Elle sent qu'on l'en revêt, mais elle ne regarde plus. Peut-être au fond veut-on l'alourdir avec tous ses bijoux, qu'elle ne puisse pas s'enfuir, que la course lui soit impossible. Ils lui ont passé aussi des chevillères. À chaque fois qu'elle marche, elle fait un bruit de danseuse. Les femmes autour d'elle ont l'air satisfaites. Elles sourient, chantent, font du bruit. Et puis, lorsque tout est achevé, Kaya entre avec un air de chef de guerre qui vient saluer ses hommes avant l'assaut. Leurs regards ne se croisent pas. Kaya l'observe comme on regarde une bête que l'on a apprêtée pour une cérémonie de sacrifice. Tout est en place. « Mettez-lui le tadouk, » dit-elle avec autorité. Les femmes s'exécutent. C'est la dernière parure avant le début de la cérémonie. On sort le tadouk d'une boîte en nacre. C'est un diadème doté d'une longue chaîne en or qui s'accroche à la narine et porte les signes sacrés de la virginité. Lorsqu'elle en est parée, toutes les filles poussent un cri de célébration. « Où est Maman Mbala ? » a-t-elle envie de demander. Mais elle n'a pas le temps de poser sa question. Déjà, on l'emmène. La chaise à porteurs l'attend.
Voilà. Mais on se dit que c'est la fin de la cérémonie du mariage. Mais non, ça va être troublé parce qu'un messager arrive en disant que la tribu ennemie est là et qu'il faut se battre. Alors, elle prie. Elle dit qu'elle prie pour que Saro soit tué et qu'elle puisse épouser Cano. Et elle dit, mais peut-être que Kaya a prié plus fort qu'elle. Et en effet, les guerriers arrivent, le combat n'a pas eu lieu, sauf le fait que Saro a tué un des guerriers, pas plus. Et elle va donc être quasi violée, il faut dire le mot, par Saro. Et c'est pour ça qu'on voit que l'étreinte, le viol est vraiment comparé à la guerre. Et à ce moment-là, Laurent Godet s'arrête un moment, il fait parler Malaka et qui dit, faut-il le dire, est-ce que je le dire, et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le récit du viol, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment trop dur, mais les hésitations du jeune homme avant de d'évoquer le viol de sa mère.
Malaka s'arrête, laisse un temps l'air doux du soir passer sur son visage. Personne autour de lui ne bouge. Aucun bruit ne vient interrompre ce silence. Il a besoin de respirer plus profondément. Il sait ce qui vient. Il sait ce qu'il va devoir raconter. Il faudra parler du corps de sa mère, qui n'était qu'une enfant, de ce corps qui avait commencé à saigner comme une fille et qui pouvait être fécondé comme une femme. Il faudra parler de sa mère avec sensualité, du désir qu'elle faisait naître, du désir qu'elle avait en elle et sur lequel tous ont craché. Il va le faire. Il n'a pas peur. Il doit juste prendre son temps. Le récit le protège. Quand il est plongé dans les mots, il n'y a plus de pudeur, plus de politesse ni d'égard. Il doit dire, simplement. Édulcorer serait mentir.
Voilà, il va donc dire, mais nous laissons la musique parler. En sortant de sa case, elle se demandait où était Maman Bala. Eh bien, Maman Bala, elle va maintenant disparaître du récit au moment où sa fille se fera jeter hors du village. Et c'est ainsi que Maman Bala disparaît. Elle disparaît dans l'eau. Elle se jette dans un torrent et on la voit se dissoudre. À ce moment-là, on voit que Malaka renonce à dire ce qu'a été la vie de sa mère après son mariage et son viol, et il dit que sa vie ne sera que résignation et que ce sera infiniment long jusqu'au tombeau. Mais cependant, l'enfant du viol va naître. Il s'appelle
Oumouyé.
Mouillée, voilà, et elle va lui donner certes du lait pour ne pas qu'il crie trop fort, et elle lui parlera pas, elle lui donnera aucun amour, et elle l'appelle elle va attendre d'avoir un autre fils, c'est celui qu'elle appelle le fils colère. En effet, elle est après, il y a un second combat, décidément beaucoup de combats dans ce récit terrible. Et Saro, elle va le retrouver. On apprend qu'ils ont été vaincus. Elle va sur le champ de bataille, alors que c'est interdit, mais elle brave les interdits. Et elle découvre Saro mourant. Elle se met debout devant lui, le regarde sans un mot. Elle est très contente qu'il soit mort. Et elle rentre. Et elle est très contente, mais oui, c'est terrible. Et elle se dit, quelle chance, je vais pouvoir épouser Cano. C'est quelque chose de terrible. Et elle revient dans le village et elle obtient de Kaya d'épouser le second fils. Seulement, au moment où la cérémonie allait se faire, arrive un fou. C'est le fou. C'est un personnage qui est un personnage propre au conte, plutôt au conte du Maghreb. Mais là, et il dit, mais je l'ai vu. Il la dénonce. Je l'ai vu debout auprès de Saro. Elle était au lieu de le soigner et de l'aider parce qu'il est blessé gravement. Elle reste immobile jusqu'à sa mort et elle n'est pas digne. Donc, cette dénonciation fait que la voilà chassée du village. Et c'est d'ailleurs ce qui déterminera la mort de Maman Bara. Et Kaya, évidemment, demande à son mari de la bannir. Et Sissoko, le roi, dit « Mais je garderai Moumouye ». Et au bout, elle s'en va dans le désert. Et au bout de 9 jours, hein, elle va naître Kourakoumba. C'est celui qu'elle appelle le fils scolaire.
Et au terme du 9e jour d'exil, elle s'assoit à la renverse sur une dune de sable. Et ce qui croissait en elle peut enfin sortir. Elle crie comme une femme qui accouche, les jambes ouvertes, dégoulinantes de sueur. Elle pousse de toutes ses forces et donne vie à son enfant colère. 9 jours de grossesse pour que naisse Kourakoumba. Il ne sort pas comme était sorti Moumouye, petit comme un chiot, rougi de l'effort de vivre. Il sort comme un homme déjà. Kourakoumba accomplit qu'elle expulse sur cette dune la 9e nuit de son second exil. Elle a un fils désormais, rien qu'à elle, un fils plus grand et plus fort qu'aucun des guerriers du village. Elle l'accueille, le chérit et l'embrasse. Elle a un fils qui sera le bras armé de sa vengeance.
Voilà, et en effet, Kourakoumba rencontrera Moumouye, ils se battent, et ils rencontrent d'abord Sissoko qu'il tue, et ensuite c'est la lutte entre les deux frères ennemis, mais étonnant, ils luttent pendant plusieurs jours de suite, et c'est à ce moment, ils se réconcilient, Et c'est une des surprises de ce roman qui ressemble un peu à une nouvelle, c'est que Kourakoumba tue, il ouvre le ventre, il a ouvert le ventre de Sissoko pour que, d'après les croyances, ce mort n'ait pas de repos et Salina va le découper et va dégager ses vertèbres. Et c'est, on peut dire, Là, il manque le tournant de ce récit avec ce qu'il appelle la deuxième nuit des maux. Et c'est alors qu'il raconte comment Kourakoumba tue, ouvre le ventre. Il raconte que Salina s'empare des vertèbres. Les frères, ils se battent 9 jours. Ils se battent 9 jours. Et se réconcilie. Et alors, Kourakoumba enterre Moumouye. C'est la réconciliation. Et à ce moment-là, il demande à sa mère, je vous laisse écouter.
Lentement, il s'approche de sa mère, se blottit contre elle. Grand corps de guerrier lové dans les bras d'une mère. Leurs visages ne sont plus face à face. Ils regardent tous les deux les étoiles. Seule la voix de Kourakoumba les unit. Il parle et elle sait que tout va s'achever, qu'elle ne pourra qu'accepter ce qu'il lui demande. Il le sent et il demande alors ce qu'il est venu chercher. Elle serre toujours plus fort le corps de son enfant. « Je te demande de me reprendre, Salina, » dit Kourakoumba, l'enfant colère. Et Salina se mord les lèvres. « Que cette nuit soit la dernière, toi seule peux mettre fin à ma vie. » Aucun guerrier jamais ne pourra me terrasser, et tu le sais. Je te demande de me reprendre. Et elle sait qu'il ne sert à rien de refuser. Alors, elle le fait, elle serre de plus en plus fort. Il sent son étreinte, Il sait qu'elle est forte, qu'elle ira jusqu'au bout. Il sourit et parle encore un peu pour l'aider, pour lui offrir encore un peu de sa voix. Je n'étais que l'enfant vengeance, Salina. Tout est accompli.
Voilà. Et il est dit, je cite, « Elle serrait comme une guerrière et pleurait comme une mère. » C'est affreux, hein ? C'est affreux, la femme qui tue son fils. Bon. Et c'est le second élément de grande, grande surprise après la découverte des noces qui va déterminer son second exil. Il nous faut maintenant revenir à la terrible... décidément, c'est psychologique, hein, Kaïa, la terrible Kaïa, qui s'est mise en quête dans tout le désert pour trouver les vertèbres de son mari qui ont été cachés par Salina. C'est invraisemblable, mais ça fait rien. Elle s'en va dans le désert et elle trouve 24 vertèbres. Mais il en manque une. Moi, je ne savais pas que les vertèbres étaient au nombre de 25. Et alors, cette dernière vertèbre fait que elle ne réussira pas à donner le repos éternel à Sissoko. Et elle va de nouveau être exilée. Et dans cet exil, elle voit arriver un cavalier. Mais le cavalier est une cavalière.
Je suis un des sept émissaires, dit-il d'un air entendu. En voyant qu'elle n'a pas l'air de comprendre, il explique. Cela fait des mois qu'il arpente les terres du Nord. À chaque émissaire, Kano a attribué une région et 9 étendards. Ils sont tous partis avec la même mission, planter leurs 9 étendards pour annoncer la nouvelle. Après seulement, ils pourront revenir au royaume. Mais quelle nouvelle ? Demande Salina. Tu ne sais pas ? Je vis parmi les dunes et elles ne m'ont rien dit. Le roi Kano est comblé. Le roi Kano ? Il la regarde avec étonnement, surpris de tant d'ignorance. Kano, oui, le fils de Sissoko. Il est devenu chef du clan de Jimba à la mort de son père. Pourquoi dis-tu qu'il est comblé ? Demande-t-elle. Parce qu'il a eu un fils. Elle blêmit, voudrait parler, mais ne peut plus dire un mot. L'émissaire poursuit. Un fils, oui, il y a longtemps maintenant, c'est cela que j'annonce. Il explique que lui et 6 autres émissaires sont partis le jour de la naissance de l'enfant. Chacun avait pour mission d'arpenter la région qui lui avait été attribuée pour annoncer partout la nouvelle. Planter des étendards aux confins du royaume, aux endroits les plus inaccessibles, pour que même là, hommes, voyageurs, marchands ou peuplades reculées sachent que Kano avait un fils. Et lui s'est perdu. Il ne sait plus comment c'est arrivé. Il a quitté un village plus au sud, puis s'est égaré. Il ne sait plus où il est, ni depuis combien de temps il est loin du monde. Il a planté son dernier drapeau sur un puits et il en est venu à penser que ce serait son tombeau, tant il se sentait loin de tout. Mais Salina est là, elle pourra l'aider. Elle acquiesce de la tête. Oui, elle connaît le chemin des villages. Il sourit. Il va pouvoir revenir sur ses pas. Peut-être, entre-temps, Kano a-t-il eu d'autres enfants. Rien n'est impossible. Mais du moins, se sera-t-il acquitté de sa mission. Elle ose alors poser la question qui la brûle, les dents serrées, essayant de ne rien laisser paraître de son émotion. Et qui elle a marié ? L'émissaire répond aussitôt, heureux de pouvoir ajouter des détails à son récit. C'est Alika, la fille de Sal El Maya. Kano a proposé ce pacte entre les deux clans parce que la guerre s'enlisait. Sal El Maya avait envahi les comptoirs les plus importants, mais les Jimba, aidés des autres clans du désert, se livraient à une guérilla qui l'empêchait de parcourir les terres qu'il avait conquises. Tous s'épuisaient dans des batailles que personne n'était plus en mesure de gagner. Kano a proposé l'alliance et tous ont loué sa sagesse politique. Des accords commerciaux ont été scellés. Les hommes de Sal El Maya se sont retirés, mais ils ont été associés aux impôts prélevés sur le commerce des caravansérails, à l'argent des épices et du bétail. Salina écoute, muette. Que pourrait-elle dire ? Les mots sont inutiles, lui déchirent l'âme et la bouche. Le temps a-t-il donc tant passé ? Une autre vie pour Kano. Une vie de souverain, de combat, de pacte, de calcul politique et d'accords commerciaux. Et elle, qu'a-t-elle fait ? Elle a erré de dune en dune.
Voilà, elle compare les deux vies, mais étonnamment, la femme qui s'est déguisée en homme pour s'enfuir, elle va lui donner un enfant qui est le fils de Cano, et elle lui dit « Je vais te le donner ».
J'ai exigé de Cano qu'il me raconte ton histoire, Salina. Je ne l'ai jamais interrompu, sinon pour lui demander plus de détails lorsqu'il me semblait qu'il était allé trop vite. Oui, tu as perdu. Ton corps aujourd'hui le montre, avec son usure et ses rides. Tu as été humilié. Pour toi, il ne reste rien, je le sais. Je pourrais m'en réjouir, car les Jimbas sont du côté des vainqueurs et je suis une des leurs. Ils sourient tous à l'évocation de ton nom parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien à redouter de toi, mais ils ont tort. Je sais, moi, qu'une guerre ne s'achève vraiment que lorsque le vainqueur accepte de perdre à son tour. C'est pour cela que je suis venue, Salina.
Voilà. Et Salina va, en revanche, lui donner la dernière vertèbre. C'est donc la paix qui est maintenant scellée entre les deux pays. Mais reste maintenant que nous revenons vraiment à la barque et au cimetière. Voilà.
Voilà, dit le passeur. Tu as porté l'histoire de ta mère jusqu'à nous. Il est temps de t'en défaire maintenant. À d'autres de la prendre et de la raconter. Elle sera sur nos lèvres désormais. La ville l'a fait sienne. Tu peux vivre. Le temps où tu portais ton héritage prend fin. C'est à ton tour de te fondre dans le monde. Tout est à venir. D'autres, un jour, raconteront ce que tu fus. Va, Malaka. Tu le sais bien, tu l'as senti au moment où tu terminais ton récit. Tout s'achève, mais tout commence en même temps.
Voilà. Et c'est ainsi que le cimetière accueille le cadavre qui est sur de Salina, qui est sur une espèce de brancard que lui a fait son fils. Et on peut dire que c'est l'auteur qui prend la parole en disant adieu Salina, et il sourit, heureux d'avoir été pour un temps celui qui raconte. Il a bien conscience que c'est quelque chose qui est raconté, que ça ne va pas durer, mais que tout de même il a fait ce qu'il devait faire. Et là, ce qui apparaît nettement dans ce moment, c'est la filiation avec le roi Songor, la mort du roi Songor. Mais on voit à quel point cela s'est étoffé dans l'imaginaire de Laurent Godet. En peu de pages, parce que le livre a 150 pages, on est vraiment bombardé de toutes sortes de vieilles légendes qui sont toujours en relation avec ce qu'on vit dans ce qui est notre vie maintenant. Dans la mort du roi Songor, on voit arriver les messagers, puisque le roi Songor, au moment de marier sa fille, voit arriver un mystérieux personnage qui va combattre sa décision, et il envoie des messagers. Alors cet envoi de messagers est commun aux deux, et ce qui ressort du livre, à ce que j'ai lu, c'est que la grandeur, la gloire sont toujours entachées, et ce qui entachées de négatif, et c'est ce qui ressort, c'est la honte à travers la grandeur. Ici, c'est beaucoup plus emmêlé, c'est très difficile. Je vais essayer à la fin de cette émission de démêler un peu, avec l'aide peut-être de Dominique, de démêler ce terrible récit qui nous atteint vraiment comme un choc, ouf, comme un choc avec une grosse pierre. Ce qui apparaît en premier, c'est l'importance de la guerre entre les clans et le fait que ces champs de bataille sont des lieux où se décident des destins. Par exemple, le deuxième exil, c'est à la suite de la mort de Sarro. Et cette guerre, c'est pas seulement la guerre entre clans, c'est la guerre économique. On voit l'importance de la guerre économique. C'est bien dit à la fin.
Mais la guerre et les réconciliations, justement.
Eh oui.
puisque les réconciliations servent à renouer les liens d'échange, les liens de commerce. Et ce sont les réconciliations entre les clans qui permettent de reprendre le commerce.
Il y a réconciliation, malgré tout ce qui a pu se faire. Et Cano, qui était vu comme un jeune homme un peu léger par rapport à son frère aîné, le terrible, eh bien, il a pris sa dimension. Le second point, c'est la question de la haine. Cette haine, c'est celle qui anime, et l'idée de vengeance, c'est celle qui anime Salima. Elle ne se résigne pas, elle est tout le temps haineuse. Son premier enfant, quand même, c'est l'enfant d'un viol, mais c'est un enfant. Eh bien, elle lui donne le sein, mais surtout, elle ne lui donnera rien d'autre. Hein. Et son enfant, eh bien, c'est celui qu'on appelle le fils colère, et c'est celui qu'elle aime et qu'elle devra tuer. C'est bien le signe, tu disais, que la haine, elle doit s'arrêter. Et alors, ce qui est aussi très beau...
Oui, d'autant que c'est un fils symbolique, puisque en fait, il n'est pas
né
comme un enfant.
Il est
né
d'elle.
Oui, c'est ça. Il est né d'elle, mais en même temps...
Elle ne peut faire que ça.
C'est comme une idée qui est née d'elle et qu'à un moment donné, elle va supprimer. Donc, en effet, la haine disparaît.
Et c'est lui qui lui demande... De supprimer en disant j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant il faut savoir s'arrêter, ce qui est rudement important. Enfin, dernier thème, c'est la présence des femmes. C'est quelque chose, si toutes ces choses-là ne pourraient pas se faire, cette réconciliation dont tu parles, si les femmes n'étaient pas là. Premier geste des femmes, prendre l'enfant qui crie dans le désert à l'entrée du village et le prendre avec elle, malgré toute la haine du village pour qu'il n'aime pas l'étranger. Et si elle le fait, on a même l'impression que ça ne tient pas debout, mais on est dans un conte. Il ne faut pas jamais oublier qu'on est dans un conte, parce que la petite fille, l'étrangère dont personne ne voulait, eh bien, elle est aimée par les deux fils du roi. Il faut le faire. Mais là, c'est le conte, c'est ce qui rend le récit si attrayant, c'est que les désirs que peut avoir le lecteur, qui sont enfouis au fond de lui-même, eh bien, ils réapparaissent. Alors, j'ai parlé de la première femme, Maman Bala, et puis alors, il y a la méchante, c'est Kaya. Elle est absolument terrible, parce que quand la jeune étrangère se jette à ses pieds, elle ne l'écoute pas. Là, il y a des souvenirs. Moi, j'y vois des souvenirs de tragique. C'est dans Racine qui s'est inspiré des tragiques grecs, quand on voit Andromaque supplier Hermione
de lui laisser
la vie sauve à son fils, et Hermione ne veut pas. Elle est trop emportée par la passion jalouse, puisque Andromaque est aimée par Pyrrhus, et elle refuse. Alors on voit là les deux femmes, une qui supplie, l'autre qui est raide dans sa jalousie et sa détestation. Ce sont des souvenirs qui émaillent un peu tout le récit, mais c'est moi qui les vois, parce que je me souviens de mes lectures, et qu'il faut le dire, hein, Laurent Godet a dit qu'il s'était beaucoup inspiré des tragiques grecs, mais qu'il aime les très vieux mythes anciens, les situe plutôt au Sahel ou en Afrique et au Maghreb, c'est sûr.
C'est l'universalité des mythes, en fait. Aussi ce que dit Ariane Mnouchkine.
Les mythes grecs
inondent toutes les autres civilisations, ou que l'on retrouve ces mêmes idées dans les autres civilisations.
Oui,
c'est la confrontation des femmes, tu as complètement raison. Finalement, les hommes se battent, mais ce sont les femmes qui construisent et déconstruisent.
On a évoqué Kaya, la méchante, par opposition à Maman Bala. Il faut évoquer aussi la femme de Saron qui vient et qui lui donne son enfant. C'est quand même quelque chose.
La femme de Cano.
Quoi ?
Alika, la femme de Cano.
Qui vient à sa rencontre dans le désert et qui lui dit qu'elle a réussi à obtenir le Cano. Là aussi, on comprend pas. Et qui lui dit ce qui a été la vie de Salima. Et qui lui donne son enfant en disant « je te le dois bien ». Eh bien, elle donne son enfant, mon chien. C'est quelque chose... Il y a des pratiques qui sont des pratiques qui nous... Comment dire ? Qui nous
surprennent.
Nous surprennent et qui nous laissent à terre pantoises. Voilà. Donc, saluons l'art de Laurent Gaudet de nous faire entrer dans des grands mythes et de nous ramener à nous-mêmes en même temps. Galère, galère, je vois arriver Brigitte et on va pouvoir terminer l'émission avec un peu de musique.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,